De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. Je ne peux pas m'empêcher de vous redire quelques phrases de la lecture que nous avons entendue ce matin, parce que je suis quand même un tout petit peu frappé que... Non, je m'amuse. Hier, je vous ai quand même invité à contempler votre innocence et il n'y a eu aucun écho. Dans mon innocence, tu m'as soutenu, psaume 40. Dans mon innocence, tu m'as soutenu. Dieu me soutient dans mon innocence et rétablit pour toujours devant ta face. Ah, je regrette que vous n'ayez pas... Enfin, vous retiendrez. Alors aujourd'hui, ce petit Paul hein, qui nous dit... En Jésus-Christ, hein, vous avez reçu toutes les richesses. Toutes celles de la parole, de la connaissance de Dieu, aucun don de grâce ne vous manque à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur. Voilà. Je m'en vais maintenant. Non, mais c'est très important. L'innocence sans reproche, etc. Je me place du point de vue du bon Dieu. Vous faites des reproches, les autres vous font des reproches, l'Église vous fait des reproches, le monde vous fait des reproches. On s'en tape, Dieu ne vous fait pas de reproches. Dieu vous considère dans votre innocence, Dieu, voilà, et vous êtes sans reproche. Non. Luc 15, 1-31, ce sont les paraboles de la miséricorde et qu'il est nécessaire que je les relise. La brebis, la drachme et le... Oui, alors je vais le faire assez vite. Hein? Donc Luc 15, 1-33, 1-32, en général ces paraboles sont séparées, on les lit séparément. Or, c'est un seul texte. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Excusez-moi, je me passionne, alors je crie, non ? Non, vous n'avez pas plein les oreilles. Ça va. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, parti pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. C'est un euphémisme. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. » Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, le pauvre, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Donc on a là trois paraboles, trois histoires, un animal égaré, un objet perdu et un homme fourvoyé. Trois récits pour nous dire la joie de retrouver. Retrouver un animal, retrouver un objet, retrouver un fils. Être perdu, errer, paumé, abandonné à la fatalité, à corps perdu, n'être plus trouvé. Nous sommes perdus quand la mort est certaine, sans remède, il est perdu, l'incurable. Il est définitivement perdu, condamné comme dépravé, fichu d'avance, irrécupérable, oublié, perdu, définitivement abîmé, à jeter, à mettre à la poubelle. Alors, dans ces tragédies-là, on comprend ce que signifie être retrouvé, être connu de nouveau, mis en présence de quelqu'un qui se réjouit et qui ne réclame rien d'autre. J'espère que vous avez déjà fait cette expérience. Quelqu'un qui se réjouit de vous voir ou de vous retrouver et qui ne réclame rien d'autre. Celle qu'autrefois, du temps du père Lataste par exemple, encore un peu après, celles qu'on appelait les filles perdues, les pauvres filles tombées dans la prostitution. ces filles publiques qui nous devancent dans le royaume, nous a dit Jésus, hein, Matthieu 21, 31. Garçons fourvoyés, filles trompées, saisissent le sens profond de ces textes que nous appelons les paraboles de la miséricorde. Vous savez que le mot miséricorde en hébreu signifie entrailles, hein, ventre, utérus. Et dans le texte du Fils qui revient, on dit que le Père est ému de compassion, ou pris de compassion, et le mot c'est entrailles. Hein, le Père est pris aux entrailles. On a trois fois ce mot dans l'évangile de Luc, pris aux entrailles. Quand Jésus entre dans le village de Naïm, et il croise un cortège funèbre. Et c'est une femme qui est veuve et qui enterre son fils unique. Et personne ne demande rien à Jésus. Et Jésus est pris aux entrailles. Et il arrête le cortège et il dit à la femme, ne pleure plus. Il y a une deuxième occurrence qui est donc là, le père qui retrouve son fils et qui est pris aux entrailles. Et la troisième occurrence qui m'échappe, c'est le Samaritain. Vous savez, quand le Samaritain croise l'homme blessé, abandonné au bord de la route, et on dit le Samaritain fut pris de compassion, mais le mot, hein, c'est ému aux entrailles. Voilà, moi j'ai des entrailles, hein, ça je vous promets. Hein. Mais enfin, voilà. Bon, donc on va revenir quand même à notre parabole. Hein, Dieu qui recherche les hommes égarés et les femmes perdues, hein, éperdument. Et donc, pour Dieu, il n'y a jamais de situation désespérée définitive, ni d'enfermement irrévocable. Dieu espère, contre toute espérance, dans chaque être humain, jusqu'au-delà de la mort. Alors, les trois fois où le mot « pris aux entrailles » est utilisé dans l'évangile de Luc, c'est intéressant, donc c'est la mort de ce jeune homme. C'est le Samaritain où l'homme est à demi-mort, et c'est la parabole du fils prodigue où le père dit « mon fils qui était mort est revenu à la vie ». Et donc, les trois fois où Jésus, dans l'évangile, est pris aux entrailles, c'est dans des situations où un être humain est proche de la mort, ou mort, ou à demi-mort, ou proche de la mort. Moi, je trouve ça très frappant. L'homme qui va vers la mort, et Dieu ne supporte pas. Dieu ne peut pas laisser l'homme aller vers sa mort. C'est pour ça qu'il s'incarne, c'est pour ça qu'il vient. C'est de ça qu'il nous sauve. Il nous sauve du mal, mais il nous sauve de la mort. De la mort définitive. Et donc la miséricorde s'adresse aux êtres humains en dehors de leur situation morale. On lie toujours la miséricorde avec le péché, et c'est totalement faux. Pour le péché, il y a un sacrement, c'est le pardon. Il y a un mot qui est le pardon. La miséricorde, c'est bien, bien plus large que tout ça. Et la miséricorde s'adresse à chaque personne humaine en dehors de sa situation morale. Et quel que soit ce que, dans toutes les religions, les tristes pharisiens appellent le péché. La miséricorde fait fi de la morale et éventuellement de ses désordres. La brebis, elle n'est pas coupable de s'être égarée. La brebis qui s'est perdue, quel est son bien, quel est son mal ? La pièce d'argent n'est pas coupable d'avoir été laissée tomber. Quel est son bien, quel est son mal ? Vous voyez où je veux en venir, hein ? J'y viens. Le fils de la parabole n'est pas coupable de s'être trompé. Quel est son bien ? Quel est son mal ? On dit facilement dans nos milieux chrétiens que l'amour peut tout, ce qui est en grande partie vrai. Mais si on aime quelqu'un, tout est possible. Si je l'aime assez, il va changer. Il va avancer, il va se transformer, il va devenir autre, il va devenir meilleur. Non, c'est du pipeau. Il ne devient meilleur que s'il reçoit et s'il accueille l'amour que je lui porte. Mais s'il est fermé à cet amour, il ne se passe rien. Donc l'amour est impuissant quand il n'est pas reçu. C'est très clair. Et dans la parabole du père avec ses deux fils, c'est intéressant parce que c'est une famille où il y a que des hommes. Il y a un père et il y a deux fils. Alors apparemment, le père, c'est Dieu. Le père, c'est Dieu et les deux fils, c'est l'humanité. Or, si le père, c'est Dieu, il aime à la perfection ses deux fils. Or, ces deux fils sont aimés parfaitement par leur père. Donc, pourquoi est-ce que ça se passe si mal avec l'un et avec l'autre ? Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Et donc, voyez que l'amour, même parfait, ne peut rien. Puisque ces deux fils sont récalcitrants à l'amour. Vous comprenez ce que je dis ? Et donc, ces espèces de phrases toutes faites et de baratins, « Oh ben si vous l'aimez, ça ira mieux », stop. Non. Si l'autre ne reçoit pas l'amour que je lui donne, ça ne sert à rien. Il faut, à un moment donné, c'est bien de s'en rendre compte aussi. Non, mais il faut continuer d'aimer, mais vous voyez ce que je veux dire. Ne vous épuisez pas, quoi. Et dans ces récits, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est l'essentiel ? Eh bien, c'est la joie du berger qui rapporte sa brebis, c'est la jubilation de la femme qui retrouve sa pièce de monnaie, et l'allégresse du père qui recouvre son fils. C'est ça le qui compte, c'est ça qui est l'essentiel. La joie de celui qui retrouve. Alors, la brebis qui s'égare est en danger. Et donc, elle est poursuivie par le berger dans une quête passionnée pour être sauvée. La pièce d'argent manquante est recherchée avec grand soin. Mais le fils, l'humain, le fils esselé, il est simplement attendu. Il n'est pas recherché. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Le père attend et le père le voit de loin et le père va au-devant de lui. Mais le berger fait toute la campagne pour retrouver sa brebis, la femme retourne toute sa maison pour retrouver sa pièce d'argent, le père attend son fils. Ben voilà, libre. Voilà. Libre. Le père attend. Ça marche ? Vous êtes convaincu ? Ah, merci. Parce qu'on ne vous l'a jamais dit, ça. Hein ? Merci, c'est bien, c'est bien. Oui, oui, tant mieux. Or, c'est tellement simple et tellement frappant, non ? Non ? Mais là encore, les parents connaissent ça. Hein, quand leur fils, ben ils attendent. Hein, ils continuent d'aimer et d'attendre. Que faire d'autre, hein. Son père lui a tout donné et l'a laissé partir. Et il continue de l'espérer pour tout lui redonner. Et il revient et il lui redonne tout. Et il le replace exactement dans la situation dans laquelle il était avant de partir. C'est-à-dire que entre son départ et son retour, rien. Le temps est. C'est comme si rien ne s'était passé. Il n'y a aucun changement. Hein, entre la situation du fils avant son départ et son retour. On lui redonne la plus belle robe, on lui donne l'anneau à cachet, la signature, des comptes bancaires, tout. Hein. Des sandales aux pieds, qui est le signe qu'il n'est pas un esclave. Hein. Seuls les esclaves ont les pieds nus. Donc il est, le mot qu'on emploie c'est réhabilité, mais je n'aime pas beaucoup ce mot-là. Hein. Mais il est plus que réhabilité, c'est-à-dire que l'épisode de son errance n'existe pas, c'est tout. Ça n'existe pas. Alors, sans doute dans l'histoire propre du fils, hein, en lui ça existe, mais pour le père, il y a absolument non, nada. Tout ce qui est à moi est à toi. Le Père partage tout, son être même, pour replacer chacun dans son intégrité et son unité. Et ça, je pense que c'est ça la miséricorde. Qui ne tient pas compte de la morale, des fautes, du péché, tout ce bazar, mais qui replace chaque être humain dans son unité, dans son intégrité, dans sa vérité. Dieu, je vous le rappelle, ne vous veut pas autre que ce que vous êtes. Il est très très content de ce que vous êtes. Je ne sais pas si vous connaissez cette prière. Vous voyez qui est Benoît Labre ? Ah oui, les gens du Nord savent, mais Benoît Labre, c'est un drôle de gugus que moi j'aime énormément parce que c'est spécial. Non, d'abord, il a été refusé dans 10 monastères. Qui est déjà très bon signe, voyez. On n'en a pas voulu. On n'en a pas voulu dans les monastères. Or, quand même, dans les monastères, on accueille à peu près n'importe qui. Ben non, pas Benoît Labre. Alors quand même, il a été accueilli dans 2 ou 3 et foutu dehors au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc déjà, très belle histoire. Hein, ben oui. Donc voilà, c'est lui, Benoît Labre. Et alors, du coup, il part sur les routes. Parce qu'il aime Dieu, et donc voilà, on n'en veut pas dans la vie religieuse. Donc, voilà. Et donc il décide de marcher sur les routes, et il part pour Rome à pied. Ça prend des années, et puis après il vit à Rome dans la rue. Alors, La chose qui me dérange un peu, c'est qu'à un moment donné, il fait vœu de plus se laver. Alors moi, ça, j'ai beaucoup de mal, et donc, voilà. Mais, bon, je respecte. Et alors, Benoît là, non, c'est magnifique. Et il a été canonisé, parce qu'au moment où il est mort, tous les pauvres sont venus voir le pape dans son palais et lui ont dit « le saint est mort ». Alors, je vous raconte ça pour vous dire la prière de saint Benoît Labre. Il dit « Seigneur, donne-moi de savoir aimer ceux qui sont perdus. » Déjà, c'est superbe. Mais attendez, c'est pas fini. « Seigneur, donne-moi de savoir aimer ceux qui sont perdus et de les aimer dans leur perdition même. » Ça vous... Ah non, c'est peut-être votre prière. Alors, mais moi, ça me surprend, quoi, parce que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est comme Dieu. Hein? Dieu m'aime, même dans ma perdition. Dieu aime l'homme, même l'homme qui se perd, et Dieu l'aime jusque dans sa perdition. Voilà. Mais c'est grandiose. C'est-à-dire que je ne vais pas exiger de l'autre qu'il change avant de l'aimer. Je ne vais pas dire ah ben ça, je commencerai à t'aimer quand tu n'auras plus ton sale caractère, quand tu arrêteras de râler, quand tu auras les yeux bleus, quand tu auras les cheveux blonds, quand tu auras vous savez, en gros les gens sont comme ça, hein, ils veulent bien vous aimer mais à condition que vous soyez autre, hein, sinon tant que vous êtes comme vous êtes ils ne vous aiment pas. Non, vous n'avez pas ce... Peut-être êtes-vous un peu comme ça, vous aussi. Hein? Et là, tout d'un coup, waouh! Non, et en effet, Dieu m'aime jusque dans ma perdition. C'est-à-dire, je vais aimer la prostituée. Hein? Je ne vais pas exiger qu'elle arrête le trottoir pour l'aimer. Non, je l'aime dans cette vérité, cette réalité d'elle. Jusque dans la perdition. C'est grandiose, non? Et c'est absolument aimer comme Dieu, quoi. On cause après. Non, parce qu'après, je perds mon fil, qui est assez flou, d'ailleurs. Hein. Voilà. Savoir aimer ceux qui sont perdus et les aimer jusque dans leur perdition. Ne pas exiger que l'autre se réforme. Si un prêtre vous embête, vous lui balancez la prière de saint Benoît Labre. Jean 1:3, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Je saute les versets suivants pour arriver au verset 14. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Voilà, on est le premier dimanche de l'Avent, dans 4 semaines on célèbre ça. Le Verbe se fait chair, il habite parmi nous. Notre corps capable de Dieu et Dieu capable de la chair. Donc, quelque chose que je considère assez fou quand même, et Jean ne dit pas « Dieu s'est fait homme », il ne dit pas « Dieu a pris un corps », il dit « le Verbe s'est fait chair ». Voilà. C'est donc par la chair que Dieu vient à nous. alors qu'on préférerait, ou on a préféré pendant des siècles, qu'ils viennent par l'âme, par l'esprit, par l'intelligence, par ce que vous voulez, mais par la chair. Ah, que c'est embêtant! Ah, mon Dieu, que c'est embêtant! Parce que la chair, vous savez, hein, il y a quand même des morceaux qui dérangent. Eh ben non! Eh ben non! Dieu prend chair, il n'y a pas de bas morceaux. Il n'y a pas de partie honteuse. Non, mais quelle révolution! Mais quelle révolution! Enfin, vous êtes d'une génération, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais moi, je sais. Ah mon Dieu, terrible, terrible. Mais oui, Dieu n'a pas pris que la cervelle ou que le cœur, hein, parce que chez les chrétiens, c'est le cœur. Hein. Ah, ça, le cœur. Ben non! Il a pris aussi tout ce qui est en dessous de la ceinture. Vous savez, tout ce qu'il faut pas en parler, tout ce qui n'existe pas, finalement. Ah oui, non, intéressant. Hein. Et donc, et c'est confirmé par l'Eucharistie. Hein. Prenez et mangez, c'est mon corps. C'est mon sang. Hein. On est quand même dans une religion... où les mots et les réalités qui sont derrière les mots sont quand même assez charnus. Hein. Et donc la grâce me vient d'abord par la chair. Eh oui, dans la chair. Le corps, chemin que Dieu choisit. Formidable. Un corps qui s'émeut, un corps qui souffre, qui pleure, qui reçoit l'hommage parfumé d'une prostituée, etc. Un corps qui mourra, enfin qui subira la passion et qui mourra. Et donc, ce corps est, je crois, le lien le plus fort entre Dieu et l'homme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous est plus commun que ça? Ah, le Saint-Esprit, je sais pas, non. Enfin oui, mais d'abord il y a cette chair commune. On a mis 2000 ans à l'oublier quand même, ou à ne pas en vouloir. Le corps... Hein. Une chair dans la Trinité, vous voyez, c'est assez sympathique. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 1:1:1, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Tout ça est très, très incarné. Dans la visitation de Marie à Élisabeth, hein, nous célébrons, nous contemplons ce mystère de la visitation, fruit du mystère, la charité, etc. Mais cette visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, qui était vieille et stérile et qui se retrouve enceinte, et peut-être avant tout une visitation de Jésus à Jean-Baptiste. Hein, ou alors il faut dire les visitations, mais moi je pense que la plus extraordinaire, alors oui d'accord, hein, Marie avec Élisabeth, d'accord, mais quand même, qu'est-ce qui se passe dans le ventre d'Élisabeth quand tout d'un coup Jésus rencontre son cousin, il y a là quelque chose de très très fort, hein, l'enfant tressaille et reconnaît Dieu qui le visite. Et Élisabeth ressent ça, l'exprime. Hein. Et je crois que Dieu, qui est l'auteur de la vie, il n'y a pas de vie hors de Dieu. Donc, je suis convaincu que Dieu est présent à la conception de chaque être humain. Sinon, il n'y a pas la vie. Donc, Dieu appelle à la vie et donne la vie à chaque être humain au moment de la conception, je veux dire. Et donc, Dieu visite chaque personne à sa conception. Et je crois que nous gardons en nous la trace de cela. Peut-être une mémoire de Dieu. Moi, je dirais ça. Je dirais que c'est ça aussi qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Et je pense que là aussi, c'est là qu'intervient le libre arbitre de chaque être humain d'entretenir cette mémoire-là, cette trace-là, ou de l'étouffer, ou de la rejeter. Je pense qu'il y a là le libre arbitre le plus fondamental de l'être humain est là, dans soit accueillir, rechercher, entretenir, ou dire pas question, ou laisser étouffer les choses. Voilà. Ça va ? Et c'est très important parce que chaque être humain a en lui, même enfoui, cette étincelle divine. Même le pire des humains, le pire du pire des humains. Voilà. Dieu n'a jamais révélé son nom. J'ai jusqu'à quelle heure ? Encore un peu ? Dieu n'a jamais révélé son nom. Ça, c'est très étonnant. On ne connaît pas le nom de Dieu. Ah oui, Dieu, c'est pas son nom. Il a dit « Je suis ». Oh, mon Dieu, je suis. Dieu est prudent. L'homme est toujours tenté de lui ajouter des qualificatifs pour le définir, pour le cerner, le saisir. Le Tout-Puissant, l'Éternel, le Miséricordieux, ce qui est vrai. Mais ce qui n'est qu'une part, ce qui ne définit pas Dieu. Dans l'islam, il y a 99 noms de Dieu, son nom étant le centième, celui qu'on ignore. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous ». C'est Exode 3,14. Dieu est sans attribut. Celui qui est, qui était et qui vient. C'est Apocalypse 1,8. Ça n'est pas celui qui est, qui était et qui sera. Magnifique. C'est celui qui est, qui était de toujours et qui vient. C'est le toujours en train de venir. Magnifique. Voilà Dieu. C'est celui qui vient. Alors, l'homme cherche à définir pour comprendre, mais aussi pour contrôler, pour dominer, pour mettre en fiche, pour mettre en case. Il est ci, il est ça, il est comme ci, il est comme ça. On fait ça avec les humains et on fait ça avec Dieu. Or, Dieu, comme l'homme, évidemment, est au-delà de toute formulation. Qui suis-je échappe à toute définition, à tout jugement, à tout enfermement. Je suis dans cet inconnu de moi-même. je suis. Constamment, peut-être déjà différent. Je suis échappe totalement à moi-même, aux autres. Et Dieu seul me connaît dans la perfection amoureuse du désir qu'il a de moi. Je crois que c'est l'unique connaissance possible, c'est celle de l'amour. Et donc, voilà, seul Dieu. Alors, dans l'évangile de Jean, Jésus se présente souvent en disant « je suis » et suivi d'une image très concrète, très simple, que les disciples peuvent comprendre. « Je suis le pain de la vie » Jean 6, 35. « Je suis la lumière du monde » Jean 8, 12. « Je suis la porte » Ça, c'est déjà un peu plus compliqué. « Je suis la porte » Il ne dit pas « je suis le portier », il ne dit pas « je suis le gardien », il ne dit pas « je suis le concierge », il dit « je suis la porte bon. ». Jean 10, 9, il dit « je suis le bon berger », avec ce terme ambigu de « bon » qui est « kalos », qui en fait veut dire « beau ». Jésus dit « je suis le beau berger ». Alors évidemment, on est très embêté, donc on dit « le bon » parce que c'est quand même plus facile. Non, parce que le beau et le bon et le vrai, enfin voilà. Mais voilà, moi ça me plaît ça. Parce qu'il aurait pu dire agathos, c'est-à-dire bon. Non, il dit kalos, c'est petite ambiguïté, il est le beau berger. Jean 10, 11. Alors il dit aussi je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Ou je suis le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, 6, où je suis le vrai cep, Jean 15, 1. Donc, assez facilement, Jésus se décrit, nous donne des éléments sur « je suis ça et ça ». Mais, dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, Jésus dit « je suis ». Sans épithète et sans attribut. Et c'est très impressionnant. Par exemple, Jean 8, 24, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Bon. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Jean 8, 28, tout ça c'est au chapitre 8, 8, 24, 8, 28. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, 58. La révélation de Dieu à Moïse, « je suis », et donc Jésus qui reprend voilà. C'est ça qui le fera mourir, évidemment, puisqu'il se prend pour Dieu, il prend le nom, enfin pas le nom, mais ce que Dieu a dit de lui-même. Alors, on peut remarquer, alors ça n'est pas dans l'évangile de Jean, mais dans les trois synoptiques, que les tentations auxquelles Jésus doit faire face, quand il est conduit au désert par l'Esprit, pour être tenté par le Satan, les tentations commencent par « si tu es ». Magnifique. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses... » Pierre de se changer en pain, etc. Si tu es. Et c'est. On est juste après le baptême de Jésus, et au baptême, Jésus a entendu tu es mon fils. Et immédiatement, le Satan, si tu es fils. Bon. Par exemple, Luc 4, 3. Et puis on retrouve ces tentations, donc là au désert, au début hein, de la vie publique de Jésus, et à la fin sur la croix. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. La vie publique de Jésus est encadrée par ses tentations. Jésus est tenté par ce doute, si tu es fils de Dieu. Le Satan prend la voix d'un des larrons ou peut-être des soldats qui sont au pied de la croix. Voilà ce « je suis ». Et donc je pense que Jésus est dans cette communion parfaite avec Dieu, hein, dans ce « je suis ». Et c'est dans ce « je suis » que moi aussi je peux développer une relation avec Dieu, ou une relation avec les autres humains. Une relation n'est possible et n'est authentique et n'est vraie que dans ce « je suis ». Une relation, mais aussi une communion. Évidemment, une communion en vis-à-vis, hein, dans la liberté absolue de l'autre. Et c'est peut-être aussi pour ça que Jésus, qui peut dire « je suis », peut déclarer, par exemple, Matthieu 16, 18, « Tu étais Simon, fils de Jonas, désormais tu es Pierre. » Je pense que le « je suis » autorise, favorise le « tu es ». Du verbe être, tu es. Et là encore, Luc 23, 43, aujourd'hui, sur la croix, hein, aujourd'hui, tu es avec moi. Au paradis. Ce que Jésus dit au larron. Grandiose. C'est... Le larron qui se contente de dire « souviens-toi », c'est magnifique, qui ose à peine espérer je ne sais pas quoi, et paf, aujourd'hui tu es avec moi, il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus vrai, le désir de Dieu est là, c'est tout, et il n'y a aucune exigence. Il ne vous demande pas, il ne vous demande rien. Alors, je vous ai signalé qu'il y avait trois fois dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, hein, Jésus qui insiste en disant « je suis ». Alors, il le dit une fois encore dans l'évangile de Jean, c'est Jean 13, 18. « Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. » Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Donc Jésus se dit Dieu, s'identifie à Dieu. Et une affirmation qui est absolument inaudible pour ses auditeurs, évidemment, et qui va justifier sa condamnation à mort et sa mise à mort. Et je suis est la raison de, je crois, toutes les mises à mort, symboliques ou réelles, de tout temps et encore aujourd'hui. On veut votre mort, pourquoi ? Parce que vous êtes. C'est je suis qui est insupportable. Et c'est à cause de ça que l'on vous condamne, que l'on vous torture, que l'on vous tue, que l'on vous que ce soit symbolique et sur 75 ans de votre existence, ou que ce soit en quelques secondes. Et donc Jésus n'a pas échappé à ça. Jésus, je suis, passe par cette réalité tragique hein, de l'existence. Et il pulvérise cette fin tragique. Et donc, Dieu, je suis, nous partage son être. C'est, je suis Dieu, je suis, mais je suis pour chacun de nous. Hein, celui qui vient. Et Dieu qui prend chair, qui vient à nous, qui nous partage sa chair et son sang, et qui nous offre sa miséricorde, et pour moi c'est ça la miséricorde, c'est je suis qui se donne à moi pour que avec lui, moi aussi, je puisse dire je suis. Il est temps que j'arrête, hein, ça commence à fumer là, non hein. Non, non, mais vous comprenez ce que je... Non. Un peu. Tout le monde dort. Bon, c'est bien. Parce que l'accusation... Là je ne parle pas du péché, etc. Je parle de l'accusation, c'est-à-dire quand on vous accuse. L'accusation tente toujours de réduire l'être ou de le tuer. C'est quand on dit tu es moche, tu es con, tu es. On vous définit en trois mots. Faut le faire. T'es con, tout ça. Alors je vous passe tout le vocabulaire à caractère sexuel. Misogyne, homophobe, etc. Vous, pas besoin de donner des exemples. Vous ne connaissez pas ces situations-là. C'est terrifiant. Hein? Tuer. Voilà. Tuer. Hein? Tuer. Et donc, cette accusation par les autres, hein, évidemment, mais qui peut ou qui a pu avoir une résonance hein, dans votre cœur. Ça arrive. Hein. On finit par se dire, mais finalement, il a raison, je suis nul. Ben non. C'est pas si simple. Mais vous voyez, il peut y avoir dans notre propre cœur une complicité. Hein. Or, cette accusation hein, qui tente de vous dire en trois mots qui vous êtes est forcément toujours mensongère. C'est évident. Donc il ne faut pas... elle est fausse, elle est mensongère, elle prétend vous définir, elle prétend toucher à votre être, et elle ne peut pas. Donc tout ça, c'est faux. Donc il faut mais sortir de l'accusation, échapper à l'accusation. Il faut se libérer de ça, vraiment. Parce que tout ça est sans fondement, tout ça est... Et là encore, seul Dieu qui me connaît parfaitement pourrait se permettre de m'accuser. Et il ne le fait pas, au contraire. Donc voilà, personne ne peut m'accuser, mais personne, et pas vous. Hein. Mon père, je m'accuse de... Ben non, enfin bon, faites-le parce que c'est comme ça, mais voilà, non, stop, non. Voilà, notre secours est dans le nom du Seigneur, et je m'arrête.